Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce rendez-vous des élèves. Aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde sur le thème de la décision, de l'arbitrage entre la protection du patrimoine et la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique. Alors pour cela, nous sommes avec deux intervenants de qualité, avec Madame Blondel, directrice adjointe de l'eau et de l'assainissement de la métropole européenne de Lille, et Madame Émilie Briand, conservatrice du patrimoine et directrice adjointe pardon, à l'archéologie Alsace. Merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Ces échanges donc, seront modérés par Madame Agathe Frochot, élève conservatrice du patrimoine, et moi-même, Adrien Barbeau, élève ingénieur en chef territorial. Enfin, la table ronde s'inscrit dans un cadre plus large du Club de Strasbourg, qui est un club inter-école entre l'INSP, donc l'ex-ENA, et l'INET, avec comme but d'insérer les enjeux environnementaux dans les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales.
Donc, pour commencer cette table ronde, nous ne reviendrons pas sur l'état d'urgence climatique qui a été maintes fois rapporté récemment par le 6e rapport du GIEC. L'idée est plutôt de se concentrer sur des pistes d'action concrètes à l'échelle de l'action publique locale entre la conciliation de la préservation du patrimoine d'une part et de la préservation de l'environnement d'autre part.
Alors aujourd'hui, on constate que, comme tous les secteurs, le secteur de la conservation, la valorisation du patrimoine doit faire des efforts, donc que ce soit de forme architecturale, artistique, archéologique, doit faire des efforts pour prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Mais dans le même temps, il est victime du réchauffement climatique. Les patrimoines des musées, que ce soit les grands musées, notamment de Beaux-Arts, sont également devenus cette année la vitrine et de l'instrument de la protestation contre l'inaction climatique. Et le premier exemple qu'on peut citer, bien entendu, ce sont ces actions écologistes qui ont lieu dans quelques musées européens qui viennent cibler les chefs-d'œuvre. Et là, vous avez un exemple à la National Gallery à Londres.
Et ce n'est pas pour rien que les musées sont pris pour cible aujourd'hui, puisque les récentes évolutions des musées les ont mis au cœur des problématiques sociétales et environnementales. Depuis les années 1970, avec le mouvement des écomusées, justement, les musées se sont ouverts sur les problématiques sociétales. Et aujourd'hui, ils en sont la cible. D'autre part, aujourd'hui, la carte des grands musées dans le monde se superpose à la carte des pays les plus polluants. Et les bilans carbone de grands établissements comme le musée du Louvre ou le musée d'Orsay sont aujourd'hui critiqués du fait du public international qui fréquente ces lieux. Cependant, les musées ne sont pas les seuls domaines du patrimoine qui sont concernés par le réchauffement climatique. Le patrimoine bâti, le patrimoine archéologique sont aussi concernés par ces enjeux-là. Et donc, on va les décliner rapidement avant de se concentrer sur une thématique plus précise avec nos deux intervenantes.
Alors, premièrement, les sites patrimoniaux. Et on peut penser notamment à la massification culturelle. Le fait qu'il y ait sur ces sites patrimoniaux de plus en plus de tourisme qui viennent saccager à la fois l'environnement, mais également alourdir le bilan carbone de ces établissements.
La thématique de la rénovation du patrimoine bâti est aujourd'hui au cœur des crispations entre préservation de l'environnement et conservation du patrimoine, puisque les architectes font face à un défi majeur qui consiste à la fois conserver les qualités architecturales et historiques des bâtiments, qui sont parfois classés au titre des monuments historiques ou protégés, et d'autre part, produire des projets qui sont d'une haute qualité environnementale avec des normes parfois difficiles à concilier avec la conservation justement des valeurs architecturales.
Enfin, pour le patrimoine archéologique, le réchauffement climatique et notamment l'augmentation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et de la dilatation des océans font peser deux menaces majeures. Le premier, c'est l'érosion du littoral qui vient mettre au jour des épaves, des aménagements littoraux et donc des fouilles d'urgence. Le deuxième point, c'est des sites archéologiques en zone littorale qui vont bientôt être submergés. Et on peut penser notamment à l'exemple de la grotte Kosker, qui dans 30 à 50 ans viendra à disparaître.
Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs de la culture et du patrimoine doivent engendrer une transition dans leurs pratiques pour conserver et transmettre les patrimoines aux générations futures dans le contexte de l'anthropocène. Et pour reprendre le vocabulaire de Diego Landivar ce matin, ce sont vraiment des décisions stratégiques à envisager et non pas des décisions tactiques ou micro-adaptatives, mais plutôt des décisions de long terme et de nouvelles pratiques à mettre en place. Cependant, face à tous ces défis, des conflits peuvent intervenir dans la décision et la priorisation de ces choix. Et c'est justement sur ce sujet-là que nous aimerions revenir avec nos intervenantes, plutôt pour proposer des pistes de conciliation plutôt que de détailler tous ces contextes de conflit.
Alors, comme vous l'avez compris, on a un temps qui est limité, donc on vous propose de filtrer le sujet qui est par essence très vaste. Donc le premier filtre, c'est on va se concentrer sur les enjeux bâtis et archéologiques, Et on va également, ce deuxième filtre, se concentrer sur les politiques environnementales visant à l'aménagement des cours d'eau et des milieux aquatiques. En effet, on a observé depuis cet été, et la sécheresse nous l'a bien montré, que ce sujet des cours d'eau est majeur et devient d'actualité prégnante.
Et d'un point de vue un peu moins dramatique, les cours d'eau sont aussi à l'agenda de programmation d'expositions dans des grands établissements muséaux français, comme le Musée des Confluences, qui, depuis cet automne, propose une exposition sur les fleuves et qui est l'un des premiers musées à avoir pris en compte cette thématique de l'anthropocène et qui nous permet aussi de réfléchir au sein des établissements patrimoniaux à ces enjeux-là.
Alors, pour commencer, première question, nous allons d'abord prendre le temps de la réflexion historique. Et depuis l'Antiquité, nous observons une augmentation de l'anthropisation des cours d'eau. Et Mme Briand, on se demandait, qu'est-ce que cela nous dit des relations entre les sociétés humaines et leur environnement?
Oui, alors, on remonte même bien avant l'Antiquité, puisque c'est vraiment à la fin de la préhistoire, dans la période qu'on appelle le Néolithique, qui est la période des premiers agriculteurs. Et en fait, cette maîtrise de l'agriculture va se traduire par de très grands changements au niveau de l'environnement. Oui, parce que pour pouvoir pratiquer l'agriculture, on va défricher de grands espaces boisés. Et c'est à cette période vraiment que l'on va commencer l'anthropisation des milieux et qu'on va commencer à transformer les paysages d'eau également. Donc cette évolution des relations société-environnement, elle doit se réfléchir, elle doit se penser en termes de coévolution et d'hybridité. Les paysages d'eau tels qu'on les connaît, aujourd'hui, ils n'ont plus rien de naturel puisqu'ils ont été forcément anthropisés à un moment ou à un autre. Donc, il faut vraiment les considérer comme des entités hybrides et voilà, en tant que telles.
Et Madame Blondel, au cours des 10 dernières années, plutôt cette fois-ci sur le plan des politiques publiques, est-ce que vous avez pu observer des évolutions dans la manière dont les sociétés aménagent les cours d'eau et justement peut-être un changement de posture vis-à-vis de toute cette période historique où l'on a canalisé, caché les cours d'eau et pour maintenant plutôt les replacer au cœur de la société? Est-ce que vous pourriez nous parler de ça?
Comme vous l'indiquez justement, on observait il y a une vingtaine d'années, même bien avant, c'est que la ville tournait le dos à l'eau parce que c'était une eau servicielle. Voilà, les cours d'eau servaient à rejeter les eaux usées urbaines, elles servaient au rejet d'eau industriel, il fallait la cacher. On observe depuis une dizaine d'années, ça s'est accentué à la sortie, bon on n'est toujours pas sorti, mais de la crise Covid et ses besoins de nature, des usages des citoyens. Une ville qui veut se retourner vers l'eau, elle devient l'élément central de l'aménagement. C'est devenu un vecteur fort de l'aménagement, un vecteur fort de la mobilité, et les aménagements en bord à voie d'eau ont une valeur de plus importante. Nous, on observe sur la métropole européenne de Lille que la valeur du foncier en bord de cours d'eau augmente de façon significative. Donc quand on conçoit les aménagements maintenant, il faut les concevoir avec l'eau, mais avec une autre qualité. Ce qui fait qu'une politique publique qui peut être l'aménagement du territoire va en impulser d'autres qui vont être la mobilité, qui vont être l'attractivité, qui vont être le tourisme et qui vont être l'eau et l'assainissement. On a fini de travailler en silo et de résoudre un problème après l'autre. Il faut vraiment faire cela dans cette globalité. Ça a avancé aussi parce que l'assainissement a aussi évolué fortement. La maîtrise des inondations ou la compréhension des phénomènes des inondations aussi, ce qui peut permettre maintenant de valoriser l'eau.
Très bien. Et Madame Blondel, comment le paysage fluvial est-il devenu la porte d'entrée d'une démarche de revitalisation plus globale des territoires?
Alors, lorsque la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations a été dévolue aux EPCI, elle a été dévolue parce que c'était un vecteur d'aménagement du territoire. Si on prend si on prend toutes les compétences en silo, si on répond à la compétence GEMAPI, on requalifie le cours d'eau, on l'aménage pour qu'il puisse gérer les inondations de façon importante et on fait une reconquête écologique. Pour autant, on n'aura pas répondu aux besoins du territoire. Le prisme que l'on a pris dans la métropole, mais qui sont dans d'autres aussi, hein, dans d'autres EPCI, notamment ceux d'importance, c'est de travailler sur 4 items. L'item de gestion du risque inondation, l'item de la reconquête écologique qui font le fondement même du cours d'eau, mais aussi les aspects de cadre de vie et d'attractivité. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un projet d'aménagement de cours d'eau en répondant qu'à « il déborde, je vais gérer le risque inondation ». Je lui fais rentrer aussi le prisme des potentialités du territoire bordant le cours d'eau de l'attractivité que pourrait amener ce cours d'eau requalifié sur l'ensemble de nos politiques, notamment en matière de renouvellement urbain.
Donc, justement, Madame Londel, vous parlez justement de cette articulation entre patrimoine naturel et d'autres enjeux d'aménagement urbain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette démarche vous a amené plus particulièrement à vous intéresser au patrimoine culturel, notamment au patrimoine bâti, qui était présent ou qui est présent sur les sites qui sont concernés par ce projet de renaturation? Et peut-être vous pourriez préciser l'ampleur de ce projet que vous avez engagé justement à la métropole.
Sur les aménagements proprement dits des cours d'eau, la compétence GEMAPI est encore relativement récente à l'échelle d'une politique publique. Donc on a juste amorcé pour les études. Pour autant, on en avait amorcé d'autres sur des remises en navigation de canal. Et ce qui rejoint aussi les discussions de ce matin sur la concertation citoyenne. Quand on commence à travailler sur le patrimoine du cours d'eau et qu'on sort du territoire et qu'on va à l'encontre des citoyens, ils se rappellent tous de l'endroit où passaient les cours d'eau auparavant. Des stigmates, que ça soit négatif hein, comme expression du passé et de la valeur que pouvaient avoir certains éléments. Par exemple, sur une remise en navigation d'un canal, les citoyens nous ont dit il y a les maisons éclusières, elles ont une histoire, elles ont une importance, on aimerait bien qu'elles soient réutilisées, mais pas qu'elles soient vendues pour devenir des lieux d'habitation. Donc on en a gardé certaines, on a gardé le bâti, on a expliqué comment ça fonctionnait, pour en faire des lieux de restauration ou d'accueil d'associations. De la même façon, dans un espace qui était une friche industrielle, on a requalifié la friche industrielle en espace naturel et on a gardé les bâtiments de la blanchisserie pour en faire un lieu d'interprétation, mais en expliquant ce que c'était la blanchisserie, en expliquant l'importance historique des bâtiments. C'est une demande assez importante des citoyens de rappeler le passé du cours d'eau, parce qu'effectivement, comme l'a dit Émilie, il a été fortement modifié. Pour autant, la mémoire sur les territoires se rappelle comment il était auparavant. Ils souhaitent que ça soit bien encore ancré.
Et est-ce que cette vision intégrée du réseau fluvial vous a aussi amené à mobiliser les habitants, les usagers, dans le cadre d'une consultation qui soit citoyenne? Est-ce que vous avez fait face également, et c'est souvent le cas dans le métier de l'eau, à des conflits d'usage?
Alors, l'intelligence collective, ça peut être une force. Pour autant, alors moi, je suis ingénieur en chef, j'ai une formation d'ingénieur. Je me dis, mais techniquement, je sais ce qu'il faut faire techniquement. Pour autant, faut pas que j'en oublie que c'est pas pour moi que je le fais. C'est vraiment pour les citoyens. Et si les citoyens n'adhèrent pas à ce qu'on a fait, ne l'ont pas partagé, n'ont pas pu s'exprimer, le projet, il est pas voué à l'échec parce qu'on va le faire. Mais la population ne va pas se l'approprier. Donc oui, on a mis en place, alors on a testé, ce qui a un peu bouleversé nos élus au départ, la concertation citoyenne et le panel citoyen, avec les limites qu'exprimait aussi l'interlocuteur ce matin, du panel citoyen qui doit être le plus représentatif des citoyens du territoire. Et c'est vrai que les personnes qui se mobilisent en premier sont les associations, sont les personnes qui ont l'habitude de se mobiliser. Il faut aller chercher les autres. Donc il faut aller chercher les agriculteurs, il faut aller chercher les pêcheurs, il faut aller chercher les cyclistes, les cavaliers, les associations environnementales, et il faut les mettre tous autour de la table pour qu'ils expriment tous leurs demandes et qu'ils s'aperçoivent que des fois leurs demandes sont contradictoires l'une avec l'autre. Et comment on fait pour concilier l'ensemble et pour trouver un projet qui est acceptable par tous, mais qui répond quand même aux ambitions qu'on voulait lui donner. À titre d'exemple, nous, on a eu à plusieurs reprises le cavalier qui disait les chemins de halage, c'est très bien, hein, mais quand il y a le vélo, le piéton, la trottinette, je peux pas faire de cheval. Comment fait-on? On essaye de trouver des voies détournées pour les chevaux qui reviennent après le long du cours d'eau. Mais ça, faut avoir mis tout le monde autour de la table pour pouvoir le faire. Il faut que nos élus soient en capacité d'entendre que le projet va prendre pas du retard. Il va avoir ce temps nécessaire à la concertation qui ne sera que le vecteur favorable à la réussite du projet.
On n'a pas vraiment parlé de patrimoine archéologique jusqu'à présent parce que je crois qu'il n'y avait pas vraiment ces sujets-là au niveau de la métropole européenne de Lille. Mais Madame Briand, je voudrais vous demander peut-être de préciser la carte archéologique, qu'est-ce que cet outil et qu'est-ce qu'il permet de faire en termes de protection du patrimoine archéologique dans le cadre de politiques de renaturation des cours d'eau, entre autres, et peut-être aussi nous parler des outils de protection que sont l'inscription et le classement au monument historique et leur efficacité aujourd'hui dans ce type de politique qui, justement, met aux prises la préservation de l'environnement et la conservation du patrimoine.
Oui, alors la carte archéologique nationale, c'est un outil qui est géré par les services régionaux de l'archéologie, donc au sein des directions régionales des affaires culturelles. Et cet outil, en fait, il sert à dresser un inventaire des sites archéologiques, mais pas que. Il sert aussi à dresser des zonages, c'est-à-dire des zones qui pourraient être intéressantes ou importantes, en tout cas, à explorer de manière archéologique. Et c'est vrai que les cours d'eau ont été assez délaissés pendant pas mal d'années. Et c'est une problématique qui refait surface. Alors, ils n'ont pas été délaissés par manque d'intérêt, puisque l'archéologie des cours d'eau, l'aménagement fluvial, que ce soit d'un point de vue des études historiques ou archéologiques, a toujours existé. C'était surtout un problème de saisine, parce que cette carte archéologique nationale, comme je vous le disais, c'est un outil, hein, c'est pas une carte qui dit où il y a des sites et où il y en a pas. Et bien parfois, quand il y a des projets d'aménagement, alors souvent on pense à des projets de lotissement, de routes, mais dans le cas des cours d'eau, on a beaucoup de projets qui sont liés à la renaturation et à la continuité écologique des cours d'eau. Eh bien, tous ces dossiers d'aménagement ne passaient pas par le bureau des services régionaux de l'archéologie. Donc, il n'y avait pas de saisine, donc pas de prescription, donc pas d'études. Vous voyez, c'est très normé comme ça. Et donc, on a une nouveauté depuis une quinzaine de jours. Il y a un accord interministériel qui a été trouvé entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Culture. Et dorénavant, du coup, tous les projets liés à la transition écologique des cours d'eau vont passer dans les bureaux des DRAC. Donc c'est un soulagement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui étaient un peu passées à la trappe. On pense notamment aux moulins, les moulins qui ne bénéficient ni de protection archéologique et très peu souvent de protection au titre des monuments historiques, et qui parfois se retrouvaient détruits en fait dans le cadre d'aménagement ou de réaménagement. Tout ce qui est aussi problématique lié aux berges, donc les berges, qu'elles soient anciennes, hein, qu'elles soient antiques, médiévales ou modernes. Donc voilà, il y a tout un champ qui s'ouvre à nous et voyez, on est vraiment dans l'actualité, là, pour le coup.
Est-ce que du coup, vous avez des connaissances de collectivités, de retours d'expérience de ces EPCI qui ont développé des outils d'accompagnement pour prévenir des situations semblables, que ce soit pour des éléments de patrimoine non protégés, justement, et notamment peut-être archéologiques ?
Oui, tout à fait. Alors, je travaille en Alsace donc depuis ma sortie de l'INET et de l'INP donc en juillet dernier. Mais j'ai un tropisme de l'ouest de la France, puisque je viens de Loire-Atlantique. Et effectivement, là, je citerai le service archéologique du département de Loire-Atlantique qui a été vraiment acteur et moteur sur ces sujets-là, et qui réalise une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de sa direction infrastructure et de sa direction du patrimoine mobilier, pour les accompagner justement dans tous ces enjeux de renaturation et de transition écologique des cours d'eau. Alors, on a eu des projets d'une passe à poissons, par exemple, à Vertoux. Et très récemment, enfin depuis l'année dernière, il y a des recherches qui sont menées donc depuis 2021 et jusqu'à 2025 dans le parc naturel régional de Brières, donc qui se trouve non loin de la côte, entre Guérande et Saint-Nazaire, pour vous donner une petite idée. Et en fait, il y a dans ce parc naturel régional des travaux de curage des canaux qui sont réalisés. Et donc, le service archéologique du département, en concertation avec donc le service régional de l'archéologie, réalise un suivi archéologique de ce curage. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, l'archéologue qui réalise un carottage, et le résultat du coup de ce carottage à côté, eh bien, ces carottes, elles sont extrêmement précieuses pour nous, parce qu'elles nous permettent de restituer toute l'évolution du paysage et du climat à cet endroit-là sur 130 000 ans. Et c'est un outil assez fort aussi. On parlait de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, il y a 130 000 ans, la mer, elle était à 2 mètres au-dessus de son niveau actuel à cet endroit-là. Et on a eu ce réchauffement de 2 à 3 degrés qui s'est opéré. Et on ne sait pas, du coup, quel a été l'impact sur l'environnement. Et toutes ces recherches vont permettre de pouvoir l'étudier et l'analyser. Alors, on a aussi quelque chose d'intéressant avec ce projet. C'est que, donc, comme c'est un PNR, on a un centre d'interprétation qui se trouve en son sein. Et que du coup, grâce à ces recherches, ou à cause de ces recherches, ils vont devoir refaire une partie de la muséographie, puisque maintenant on connaît l'histoire de ce territoire beaucoup mieux. Donc voilà, il y a un impact aussi du coup sur l'écotourisme dont on parlait tout à l'heure.
Et justement, pour faire la transition avec cette question de la valorisation des patrimoines, on va terminer cette table ronde en finissant la chaîne patrimoniale, en fait, de la conservation jusqu'à la valorisation. Et je voulais vous demander à toutes les deux si vous aviez connaissance d'autres projets de territoire qui mettent en jeu les patrimoines pour leur valorisation, pour assurer la transition culturelle finalement qui est appelée par la transition écologique, plutôt du point de vue des représentations de comment des espaces muséographiques, des espaces recevant du public peuvent aider à construire de nouvelles visions de l'environnement et justement nous transformer les relations entre les sociétés humaines et leur environnement.
Oui, alors juste avant de passer le concours de conservateur, j'ai été directrice d'un petit écomusée associatif, justement à Guérande, et on parlait des marais salants. Donc du coup, j'ai ce regard un petit peu des deux côtés, du côté scientifique, mais aussi du côté valorisation et contact avec le public. Et la première image que vous pouvez voir sur la gauche, c'est une maquette relief avec projection numérique animée qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi maintenant. Et en fait, sur cette maquette, qui fait quand même 20 mètres carrés, hein, sur une bonne maquette, eh bien, vous voyez, on a le territoire de la presqu'île de Guérande qui est représenté. Et l'animation permet en fait de montrer le mouvement des marées et comment la mer arrive dans les marais salants par le biais des différents canaux et étiers. Voilà, donc il y a aussi la volonté de montrer l'évolution de ce paysage depuis la préhistoire jusqu'à nos jours avec cette maquette. Donc on a des vrais outils pédagogiques aussi qui permettent de vraiment se rendre compte visuellement de comment un paysage évolue finalement sur plusieurs milliers d'années. Et sur la photo de droite, eh bien, c'est des visites qu'on réalise dans les marais salants directement, donc avec des scolaires essentiellement ou des groupes. Et puis l'été, forcément, presqu'île de Guérande, on est à côté de la Baule, donc on a un tourisme très familial et très présent. Donc voilà, avec cette sensibilisation à comment fonctionnent les marais et cette question un petit peu tragique, puisqu'on sait qu'avec la remontée du niveau marin, ces marais ils sont amenés à disparaître hein, dans les 50 à 80 prochaines années, puisque les marais salants de Guérande, même comme tous les marais salants de l'Atlantique, se situent en dessous du niveau de la mer, tout simplement pour que le mouvement de l'eau suive la déclivité naturelle du terrain. Donc pour le moment, il y a des digues qui retiennent l'eau, mais pour combien de temps? Et à Guérande, on a l'exemple de la tempête Xynthia qui a fait sauter la digue principale qui permettait en tout cas de contenir la mer. Et la moitié des marais salants a été inondée à ce moment-là. Donc ça a nécessité énormément de moyens financiers, humains, pour pouvoir remettre les marais en route pour la saison d'été. Donc il y a eu 3 mois de travail intensif dans les marais. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça tous les ans? Voilà, c'est une question qui reste ouverte. Donc la sensibilisation, elle est aujourd'hui essentielle pour pouvoir transmettre ce patrimoine.
Et Laurence, de votre côté, vous avez aussi des services de la métropole qui développent des projets de territoire autour de l'eau
Oui, on a un projet ambitieux qui se veut être ce qu'on appelle le projet des territoires gardiennes de l'eau. Voilà, 29 communes de la métropole qui accueillent 30% de la ressource souterraine qui alimente la métropole, plus d'un million d'habitants. Où la difficulté, c'est que c'est souterrain. Voilà, le cours d'eau, on le voit, on peut le matérialiser, on comprend comment il fonctionne. La ressource en eau souterraine, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est sous nos pieds et on comprend pas. Et les termes qu'on utilise sont souvent très techniques. Donc on travaille actuellement à effectivement des maquettes de ce type pour faire comprendre et sensibiliser à la fois les plus jeunes âges, hein, parce qu'on sait que c'est ceux qui vont diffuser plus facilement la sensibilisation, l'information. Et on travaille aussi au récit du territoire. C'est-à-dire que, comment la ville s'était construite autour de l'eau, comment on avait préservé les marais, et puis comment, avec l'ère industrielle, elle a tourné le dos à l'eau et elle a remblayé les marais, et comment maintenant elle revient à j'essaye de représerver mes marais et mes zones humides, et comment je valorise ce qui est sous terre. Voilà, c'est un peu la complexité, c'est de sensibiliser sur quelque chose qu'on ne voit pas et qui est difficile à comprendre.
Écoutez, on arrive à la fin de ce premier tour, on a encore un peu de temps, donc ce qu'on peut proposer, c'est si dans le public vous avez une ou deux questions qu'on pourrait prendre pour nos intervenants. Oui, monsieur.
Alors, j'ai la chance d'être déjà une commune en bord de Loire avec un capital historique, quoi, l'UNESCO, ancienne capitale royale, ce qui fait que les questions de préservation du territoire sont en contradiction systématique avec nos politiques publiques. Je vais rester sur, j'ai deux questions, j'ai une première par rapport à la reprise, en fait, quand vous avez restauré le patrimoine fluvial, enfin, je sais pas comment vous appelez, des canaux, vous avez, si j'ai bien compris, été obligé de reprendre en gestion publique un certain nombre de bâtiments intéressants historiquement. Et aujourd'hui, un débat très fort dans ma commune, puisque globalement, dès qu'un monument, un tant soit peu historique, et même inscrit, est sur le marché, la question, c'est, il faut que la ville le rachète. Et on peut pas, on a déjà un château, on va pas racheter toute la commune, c'est pas possible. Donc, est-ce que vous avez d'autres modèles, finalement, que la maîtrise publique du patrimoine? Et la deuxième question sur la ressource en eau, la Loire est un fleuve qui, si j'ai bien compris, a énormément évolué dans son histoire, qui finalement a été transformé par l'homme en voie navigable. Aujourd'hui, la politique, c'est au contraire de rendre le fleuve naturel. Et les habitants, dans leurs souvenirs, ils se baignaient, ont circulé sur la Loire. C'est quoi finalement la date? C'est quel moment qu'on préserve dans le patrimoine d'un fleuve? C'est-à-dire, est-ce que c'est son état initial, son état au Moyen Âge, etc.
Alors sur les bâtiments, effectivement, l'exemple qu'on a, c'est un canal qui était un canal décentralisable de VNF qu'on a pris l'expérimentation. C'est, pour l'instant, c'est le seul où on a conservé l'expérimentation. Je suis pas sûre qu'on va reproduire la chose, mais effectivement, on était c'était lié à la propriété publique. Après, il y a quelques maisons éclusières qu'on a revendues avec des obligations, par contre, de préserver parce qu'on les a inscrits. Du coup, voilà, on les a protégés. Mais effectivement, ça passe assez régulièrement par une intervention publique ou alors une sauvegarde dans les documents d'urbanisme, hein, de ce qui a été recensé comme remarquable ou à conserver. Pour le volet,
Alors ça, c'est vraiment c'est une question qui est ouverte, qui peut être débattue et qui, je pense, n'aura pas la même réponse selon les endroits où on se trouve. C'est vraiment là, on est vraiment sur le domaine de la décision et de la politique publique, justement. Qu'est-ce qu'on veut faire de son cours d'eau? Quelle image on veut en donner? Et ça, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu le fait de mettre tout le monde autour de la table aussi, hein, la participation citoyenne, le débat. C'est vrai que nous, en tant que, en tout cas dans l'archéologie territoriale, nous, on est vraiment là juste pour aider, pour renseigner. Par contre, le choix, il demeure toujours un choix politique, et politique dans son sens le plus large et le plus noble aussi.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Si vous n'en avez pas, on peut en trouver une.
Émilie, juste pour compléter cette réponse, est-ce que vous pourriez parler peut-être de l'importance des études historiques à mener sur ces espaces-là pour justement connaître en fait la longue durée des usages, des aménagements et qui... permet d'être d'un outil à la décision en fait assez important et peut-être des études qui sont à l'heure actuelle assez rares encore sur ce type d'environnement et justement je crois qu'on avait mis des éléments d'archives qui permettent un peu de retracer les trajectoires historiques de ces cours d'eau et leur évolution.
Alors du coup, il y a plusieurs réponses à apporter par rapport effectivement aux cours d'eau qui ont évolué, hein, et qui sont mouvants. C'est vrai que d'un point de vue de l'archéologie, on se retrouve souvent à fouiller sur des paléochenaux, c'est-à-dire qu'on apporte l'information qu'à tel endroit, il y avait effectivement un bras de telle ou telle rivière qui passait. Ça peut avoir un vrai impact après sur l'aménagement futur qui est prévu à cet endroit-là, puisque ça, c'est une information qui n'était pas forcément connue avant. Moi, ça m'est arrivé de fouiller dans un endroit, voilà, c'était un énorme champ, et finalement, au moment de la fouille, on s'est rendu compte que c'était des anciens marécages du Moyen-Âge. Bon, forcément, l'aménagement qui était prévu au-dessus, c'était un lotissement avec des caves. On a dit que ce serait une bonne idée d'éliminer les caves. Bon, l'aménageur privé ne nous a pas suivis. Bon, le résultat, c'est que les caves, elles sont inondées un tiers de l'année maintenant, à cet endroit-là. Donc déjà, nous, on peut vraiment apporter des éléments sur ce type de choses. Et après, vraiment, je pense que ce qui nous manque de manière plus globale, et c'est vraiment il va vraiment falloir qu'on se mette au travail là-dessus, c'est qu'il faut qu'on se mette autour de la table à plusieurs. C'est-à-dire que on travaille sur cet environnement, il faut mettre autour de la table les monuments historiques, le service de l'inventaire, l'archéologie, les services des voies navigables. Et il faut vraiment qu'on apprenne à discuter ensemble, puisque finalement, on a le même sujet, mais on n'a pas le même langage, ou en tout cas, on ne parle pas la même langue. Donc, on a encore beaucoup de travail qui nous attend.
Ah, je crois qu'on a plusieurs questions dans la salle. Vous avez eu un peu plus de temps pour réfléchir, justement.
Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout juste, je voulais juste apporter un éclairage supplémentaire. C'est sur l'action des services d'inventaire en région. De nombreuses régions se sont impliquées depuis une dizaine d'années dans l'étude des éléments bâtis, des voies d'eau, qu'il s'agisse de rivières ou de fleuves canalisés ou de canaux à proprement parler. Et que, en règle générale, voilà, ces données sont en ligne, soit sur les plateformes des régions, les plateformes patrimoine, soit sur les bases du ministère de la Culture. Il y a de très, très nombreuses régions. Je pense notamment à la région Bourgogne, à la région Centre. La Nouvelle-Aquitaine aussi a énormément travaillé, la Bretagne. Donc, il y a une somme, en fait, à capitaliser. Il manque peut-être plus qu'une orchestration nationale pour faire une synthèse là-dessus et convoquer tous ces regards dont vous parliez à l'instant, en gros, de l'étude jusqu'à la valorisation et ce que l'on en fait, parce qu'on est, voilà, en termes de conservation, tout est possible. Et la possibilité de ne pas tout conserver est aussi à étudier.
C'est tout à fait ça. Comme disait Laurence tout à l'heure, il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table pour discuter et qu'on arrête de travailler en silo chacun de notre côté.
On a une autre question devant.
Bonjour, merci pour ces échanges extrêmement intéressants. Je me pose une question, alors peut-être pas tant sur les canaux que sur le patrimoine en général, et je pense notamment au littoral ou même au marais salant. Quel arbitrage faire entre une envie de valorisation du patrimoine, donc notamment via du tourisme, et des besoins de protection de l'environnement, de ne pas en faire forcément un lieu de tourisme de masse et d'être dans un espace naturel à protéger. Comment trouver la balance, l'équilibre et l'arbitrage entre ces deux tendances?
C'est très, 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 très compliqué. C'est très difficile. Les marais salants de Guérande, en plus, ne possèdent pas de protection de type parc naturel régional, comme c'est le cas en Brière, parce qu'on a de l'activité agricole. Alors, les paludiers, les producteurs de sel, sont considérés comme exploitants agricoles. Donc on est vraiment dans un espace hybride. On va dire que finalement, c'est un peu... On parlait d'usage tout à l'heure et de conflit d'usage. Finalement, là, c'est un petit peu le droit de propriété qui vient aider à la préservation de l'environnement, puisque tous les chemins qui mènent au marais salant sont des propriétés privées qui appartiennent aux paludiers. Et donc, tout le monde ne peut pas emprunter, en fait, ces chemins-là. Finalement, il y en a quand même un peu, mais il n'y a pas tant d'espace accessible que ça, finalement, dans les marais salants. C'est-à-dire que si on ne passe pas via soit l'écomusée, soit l'office de tourisme, qui vont dans des endroits très spécifiques, et qu'on veut se balader dans les marais salants, vous avez très souvent un paludier qui vous court derrière. Donc finalement, là, quelque part, c'est le droit de propriété qui fait la protection. Mais il y a encore effectivement beaucoup de choses à réfléchir.
Il y a une dernière question. Je prends les deux questions à la suite et puis après.
Est-ce que vous avez pu avoir des retours d'expérience sur l'intégration aussi du patrimoine immatériel? Alors les paludiers, finalement, c'est déjà une réponse à ma question. Mais d'autres, je pense aussi à des éléments bâtis, techniques, comme les barrages à aiguilles, qui sont en train d'être démontés, tant pour la pénibilité du travail que pour la gestion des milieux. Voilà.
J'ai une question pour Émilie, c'est est-ce que le fait qu'on sache que des zones vont disparaître parce qu'elles vont être submergées, ça déclenche des recherches archéologiques? Ou comme elles vont être immergées, il n'y aura pas d'aménagement, et comme il n'y a pas d'aménagement prévu, il n'y aura pas de recherche en archéologie préventive?
C'est super intéressant. C'est pas le cas. À l'heure actuelle, vraiment, il y a des interventions quand il y a un projet d'aménagement ou des interventions de sauvetage. Pour l'érosion marine, par exemple, alors toujours, mon tropisme Loire-Atlantique, par exemple, on a donc une île au large de Saint-Nazaire où l'érosion marine a fait réapparaître des sites de l'époque gauloise, donc des fours de salaison, des fours de sel, c'était inscrit dans le territoire le sel. Et donc chaque année, il y a un mois de suivi archéologique qui est fait, mais là, on est vraiment sur du sauvetage, parce qu'on sait très bien qu'après, avec la mer, les vagues, tout va être emporté. Donc non, pour le moment, il y a, en tout cas, j'ai pas connaissance de réflexion en amont, ça doit arriver. Mais c'est toujours lié à des projets d'aménagement, il y a un projet de barrage, par exemple, on va fouiller les sites qui se trouvent en amont. Mais voilà. Non.
Sur la question, donc, si j'ai bien compris, de patrimoine tel que d'autres exemples d'arbitrage sur des patrimoines tels que des barrages à aiguilles qui doivent être remplacés, donc arbitrage entre la nécessité technique et la conservation du patrimoine, si j'ai bien compris.
Et la question de l'usage, comme aussi, qu'on peut aussi considérer comme du patrimoine immatériel, mais qui tend à disparaître aussi, mais qui est peut-être un vecteur de maintien du patrimoine et d'une activité.
Sur la conciliation entre la continuité écologique et les barrages, on est souvent confronté à ça. Effectivement, on l'emporte la continuité écologique. De toute façon, si on veut faire une intervention et que réglementairement on soit autorisé, il faut faire sauter le barrage. Ce qui se passe assez régulièrement, c'est quand il avait une certaine valeur et rappeler le long du cours d'eau l'existence d'un ouvrage, on laisse quelquefois des stigmates de l'ouvrage, mais qui n'empêche pas la continuité écologique et puis la remontée des poissons, en mettant un panneau pédagogique. Et voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille un peu plus, mais c'est rappeler ce passé, rappeler la fonctionnalité du cours d'eau ancienne, mais par des petits stigmates et puis dès l'histoire, le récit du cours d'eau qui est présent sur le cours d'eau. Quand on a la chance qu'il reste en état de lecture sur le cours d'eau, mais
Écoutez, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Nous avons essayé de bien montrer l'intérêt et vraiment la nécessité de concilier la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection du patrimoine. Toutes ces politiques publiques, pour nous, elles se parlent et on a quand même eu pas mal d'exemples pour montrer qu'elles sont très complémentaires. Et ce que nous apprennent d'ailleurs ces exemples et ces différents retours d'expérience, c'est deux choses. Premièrement, c'est finalement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est décloisonner les savoirs, les compétences, les cultures professionnelles et les champs d'intervention des politiques publiques pour promouvoir une transition qui serait socio-environnementale et durable. Et le deuxième point, c'est multiplier les outils de co-décision, que ce soit entre les différents secteurs ou avec les citoyens. Donc, nous vous remercions fortement, que ce soit vous les intervenants et vous le public, d'être présents. Et on vous a noté quelques éléments si vous avez envie d'aller plus loin, bibliographique, sur cette thématique-là. Merci beaucoup.